vocation. Bonjour Edwin Zakaï.
Bonjour.
Vous êtes professeur en développement durable à l'ULB et vous avez coécrit le livre « L'adaptation climatique ». Vous êtes donc l'homme idoine pour en parler. Je le disais, ils étaient nombreux hier lors de ce sommet virtuel organisé par les Pays-Bas, Emmanuel Macron, Boris Johnson, Angela Merkel ou encore le secrétaire général de l'ONU. Ils ont tous pris la parole. Alors d'abord cette question indispensable, Edwin Zakaï, l'adaptation climatique, si on devait le définir, c'est quoi exactement ?
L'adaptation, c'est le fait de prendre au sérieux les impacts du changement climatique qui se trouvent déjà présents aujourd'hui et qui vont augmenter, on le sait bien, à l'avenir, et de voir ce qu'on peut en tirer comme effet positif éventuellement, il y en a quelques-uns, ou se prémunir contre les effets négatifs. On dit parfois que réduire la pollution, qui est tout à fait nécessaire, c'est éviter l'ingérable, et l'adaptation, c'est gérer l'inévitable.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça doit être une action coordonnée de ces deux pans-là, de ces deux éléments-là. On va y revenir. Je vous propose d'écouter le président français Emmanuel Macron qui s'exprimait hier soir.
Au Nord comme au Sud, il nous faut repenser les infrastructures, les routes, les ports, à l'aune de l'élévation du niveau de la mer, des événements climatiques violents, de la hausse des températures moyennes et des transformations d'écosystèmes que cela engendre. Tout cela est la meilleure manière de prévoir les prochains chocs, de lutter contre les grandes transformations qui sont déjà à l'œuvre et aussi d'avoir une action utile et coordonnée contre les grandes inégalités de nos sociétés et à travers le monde.
Alors, quand on entend ça, Edwin Zakaï, l'adaptation, ça pourrait passer pour une forme de renoncement. C'est plutôt une forme de résilience, selon vous, si j'ose utiliser le mot, c'est essentiel ?
C'est de toute façon essentiel, oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on avait des réticences par rapport à ça parce qu'on avait peur que ça démotive les diminutions d'émissions, ce qu'on appelle l'atténuation, donc le fait de diminuer les émissions de CO2, ce qui est absolument indispensable. Mais là, maintenant, il est nécessaire d'être pragmatique et de voir ce qu'on peut faire par rapport aux impacts qui sont déjà là, de faire comprendre que le climat va continuer à changer, en fait, on va vivre dans un climat où le normal va évoluer de décennie en décennie. Et il est important que les citoyens soient informés de ce qui les attend pour qu'ils puissent prendre des décisions en conséquence et que les pouvoirs publics, effectivement, prennent des mesures.
Alors, on entendait hier le président du Fonds international du développement durable, dans le cadre de ce sommet, demander de l'aide instamment aux petits agriculteurs des pays en voie de développement. Est-ce que ça ne risque pas de passer pour une forme de bonne conscience, finalement, ce genre de sommet ? Les pays riches qui polluent énormément financent des pays en développement qui sont en fait les premiers touchés par les changements climatiques. C'est une question quoi, de compensation ou de justice ?
C'est clairement une question de justice en fait, dans la mesure où les agriculteurs en effet des pays en développement sont ceux qui sont les plus touchés aujourd'hui par le changement climatique parce que ça concerne des dizaines, des centaines de millions de personnes où les saisons sont modifiées, où ils ont très très peu de moyens d'agir et ils sont très très peu responsables des émissions en fait. On estime qu'un habitant par exemple du Mali ou du Burkina va émettre 100 fois moins qu'un Belge environ. Donc, y a réellement une question de justice. Et si on ne fait pas ce genre de transfert financier, c'est un peu décrédibiliser les systèmes internationaux. Alors, ça ne suffit pas non plus de donner de l'argent. Ceci dit, on en donne assez peu. Lorsqu'on parle de milliards, c'est beaucoup des prêts qui sont pris en cause et plus que les dons. Mais ça ne suffit pas de faire ces transferts financiers. Il faut également que ça arrive réellement sur le terrain. Et là, c'est le rôle aussi des pouvoirs publics dans ces pays-là ou des ONG ou de la transparence pour voir comment est-ce qu'on peut réellement atteindre les associations paysannes sur le terrain.
Toujours dans cette divergence nord-sud, d'ailleurs, il y avait un rapport de l'ONG German Watch hier qui affirmait que sur les 500 000 victimes des événements climatiques extrêmes de ces 20 dernières années, ce sont surtout les pays les plus pauvres qui payent le prix humain le plus lourd. Ça va dans le même ordre d'idée que ce que vous disiez. L'autre élément important, on l'a abordé au début de cette interview, Edwin Zakaï, c'est que la réduction des gaz à effet de serre, ça doit être une coordination mondiale, ça doit se faire avec la l'adaptation aussi, évidemment. Ça a été abordé dans la dernière, dans la COP 21 à Paris. Mais l'adaptation, Edwin Zakaï, ça peut aussi se faire au niveau local. Est-ce que la Belgique y réfléchit ?
Oui, la Belgique y réfléchit, l'Europe y réfléchit. L'Europe demande aux différents pays d'avoir des plans d'adaptation. Ça peut se faire au niveau national, au niveau régional, au niveau local. Il y en a. Ça vient notamment des impacts qui sont constatés, par exemple, par les agriculteurs également chez nous ou par les forestiers. Je donne un exemple tout simple. Le type d'arbre qu'il faut planter aujourd'hui n'est plus le même que par le passé. Le type de culture également va évoluer. Donc, ça évolue et la visibilité des impacts promeut en fait ce genre de plan, c'est-à-dire que le cerveau humain a besoin de concret et les graphiques des scientifiques, même s'ils sont bien documentés, vont avoir moins d'impact sur la décision qu'une canicule ou que des événements extrêmes. Et donc quand il y a des événements anormaux dans n'importe quel pays, on voit apparaître des pressions pour qu'il y ait une adaptation qui soit réalisée.
Alors concrètement, s'il faut être pragmatique et penser à des aspects concrets de cette adaptation, ça veut dire quoi ? Qu'il faut repenser beaucoup d'aspects de notre organisation ? On parlait en préparant cet entretien, par exemple, des assurances.
Oui, les assurances, c'est un point clé, en effet, parce que des impacts, il y en aura nécessairement. Donc, on peut se prémunir, par exemple, contre les inondations avec d'autres types d'aménagements de l'eau, etc. Mais il y aura nécessairement des impacts ou des incendies de forêt ou ce genre de choses-là. Et donc, l'assurance permet de mutualiser les risques et que ce ne soit pas des individus isolés qui soient touchés, mais qu'on puisse répartir les risques. Alors, ces assurances se développent assez fort et, à la limite, elles pourraient faire pression également sur le fait de ne plus s'installer à certains endroits qui sont trop sensibles à des impacts. Et donc, elles peuvent jouer un grand rôle. Alors, on parlait tout à l'heure du fait des victimes des événements anormaux dans les pays du Sud. Et on peut voir qu'il y a plus de biens assurés dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Donc, il y a aussi une démarche pour voir comment des assurances peuvent se mettre en place dans des pays en développement, mais également en étant attentif à rester proche vraiment du terrain.
Alors, je le disais aussi dans le sommaire, penser l'adaptation, ça peut au final, et ça devrait aussi avoir un impact positif sur d'autres pans de la société, lesquels, par exemple, il y a un rapport qui est sorti en Belgique, je crois que c'est l'année passée. Qu'est-ce qui dit concrètement ce rapport ? Qu'est-ce qu'on peut, entre guillemets, qu'est-ce qu'on pourrait tirer de cette adaptation si on y réfléchit et si on l'applique.
Écoutez, moi je crois d'abord que c'est important d'informer largement sur le climat qui va y avoir d'ici 10, 20 ans, 30 ans, bon, au niveau mondial, mais tout simplement au niveau belge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Quand on parle notamment à des jeunes, il y a des visions très sombres, très noires. Et donc je crois qu'il est important de savoir plus précisément ce qui nous attend, parce que ça permet de prendre des décisions par rapport à des achats immobiliers, par rapport à des activités diverses et variées. Alors, on voit par exemple pour l'agriculture, bon, c'est un peu anecdotique, mais dans des régions plus nordiques, on peut cultiver du vin, par exemple. On peut avoir également au niveau touristique certaines destinations qui deviennent plus agréables. Donc, il y a effectivement aussi le fait d'avoir moins de malades et de morts. Enfin, bon, c'est un peu particulier de parler de ça en plein Covid, mais au niveau des grippes et au niveau de certaines affections dues à l'hiver, il y a une baisse à ce niveau-là. Donc, il y a des aspects positifs. Maintenant, c'est quand même, il ne faut pas se leurrer, des aspects négatifs qui dominent avec des canicules, avec toutes sortes d'éléments qui affectent également les entreprises, l'eau, etc. Et encore plus dans les pays du Sud.
C'est ça, j'allais dire, l'équilibre est quand même difficile à trouver. Si on parcourt ce rapport, par exemple, on voit une série d'effets positifs. Ça pourrait être que les cultures vont bénéficier de la fertilisation au CO2, évidemment à cause de l'augmentation des concentrations atmosphériques. Mais d'un autre côté, les températures seront plus élevées, les sécheresses seront beaucoup plus nombreuses, les quantités d'eau peut-être moins disponibles. C'est quand même très difficile à évaluer au final.
C'est très difficile à évoluer. Donc, il va falloir le faire continuellement, en fait. C'est un domaine qui va se développer et qui va tout le temps évoluer, qui va demander plus de formation hein, des professionnels, des agriculteurs, des entreprises, pour voir comment les impacts les affectent. Il y a déjà des études qui se font, mais c'est quelque chose qui va continuer, oui.
Merci beaucoup, Edwin Zaka. Et je rappelle que vous êtes professeur en développement durable à l'ULB. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Et à 6h47, il est grand temps pour nous de se rendre au centre RTBF Mobile Info où nous attend Jean-Marc Strel. Y a-t-il plus de nouvelles que tout à l'heure, Jean-Marc ?
Oui, deux nouvelles à vous communiquer. Quelques ralentissements sur le ring de Bruxelles, non pas en extérieur, mais bien en intérieur, entre Strombeek-Bever et Grimbergen, en direction de Zaventem. Et, pardon, quelques ralentissements sur la petite ceinture de Bruxelles, à hauteur du tunnel Léopold II, en direction du Midi.
Matin première.